Rockville, au fin fond de l'état du Maryland aux États-Unis. Déjà, tout un symbole. Sur les driveways devant les maisons, des pick-up, et dans les rues de cette banlieue au nord d'Arlington, de la neige. Beaucoup de neige. Nous sommes le matin de Noël de l'année 1971. Il est 7h30. Dans un petit pavillon beige, blanchi par le manteau blanc qui a accompagné Santa Claus, une jeune fille s'apprête à déballer ses deux cadeaux au pied d'un sapin artificiel. Ce sont deux paquets qui vont changer son destin, et par là même, celui de la musique. La reine du rock'n'roll est née un matin de Noël, et son histoire, vous allez le voir, n'a rien à envier à un conte des frères Andersen. Il est maintenant 7h45, l'heure hache de mon histoire. Joanne Marie Larkin se réveille doucement ce matin-là, avec l'excitation des grands jours. Bon, ne vous méprenez pas, cette adolescente de 13 ans n'attend plus le Père Noël depuis longtemps. Mais en enfilant ses chaussons avant de sortir de sa chambre, en déboulant dans les escaliers et en découvrant la neige tombée en abondance la nuit précédente, elle retombe en enfance, l'espace d'un instant. Ses parents ne sont pas encore levés. Sa mère dort encore, tout comme ses deux petits frères. Son père, lui, est sans doute parti embrasser leur grand-mère qui habite un peu plus loin. Le vieillissant 4x4 Ford n'est plus dans l'allée. Seul subsiste comme témoin les traces fraîches laissées par ses gigantesques pneus dans la neige. La petite maison est d'un calme olympien, sans ses parents qui se disputent bruyamment à la moindre occasion. Ils forment un vieux couple qui a commis l'erreur de laisser grandir dans le jardin de leurs sentiments des roses bourrées d'épines, des rancunes et des non-dits. Piège fatal. La moindre remarque à l'effet d'une grenade dégoupillée et boum ! Les parents de Joanne n'en sont pas encore là, mais tout de même, chaque verre laissé par son père dans l'évier est l'occasion pour sa mère de sortir la sulfateuse. Dans ces cas-là, son vieux enfile alors sa casquette de campagne de Nixon, ses Timberland pleines de boue, et part avec Cherry, qui saute dans la benne arrière du pick-up. Cherry, d'ailleurs, dort maintenant paisiblement devant le radiateur. Cherry est une dogue allemande noire de 65 kilos, un bon 80 cm au garrot. Sa tache blanche sur l'œil droit lui donne presque un air aristocratique. Une vraie star de rock'n'roll. La jeune fille lorgne bien entendu sur les paquets au pied du petit sapin en plastique acheté chez Bottom Dollar de Rockville Center. Comme tous les ans, son père a installé les guirlandes à l'extérieur du pavillon. Il a aussi manqué de se tuer, car son ignorance en électricité l'a conduit à faire des branchements électriques hasardeux. Le petit sapin, ce matin-là, scintille par intermittence. L'ampérage de la baraque des Larkin, c'est pas Versailles. Dans la cuisine, Joanne attrape un paquet de cornflakes dans le placard, un bol dans la commode. Elle réveille Cherry en bondissant par-dessus le canapé. Le chien, lui, souffle, se relève, fait un tour sur lui-même et se recouche dans la même position, désespéré par les ados comme peuvent l'être ses maîtres. Bon, cette fois, les paquets lui font vraiment envie. Hors de question de se déplacer, de remonter les escaliers et réveiller sa mère. Non. Non, la jeune rebelle aux cheveux plus noirs que les plumes des corneilles allume la platine qui se trouve sur une petite console au bout du canapé et attrape le premier disque qui lui tombe sous la main. Mark Bolan and the T-Rex. Très bien. Du bon rock un peu sale, juste assez pour faire lever la matriarche qui n'écoute que les Beach Boys et les Beatles. À cette pensée, et en enclenchant le mécanisme de mise en route, Joanne lève les yeux au ciel. Franchement. Maman, les Beach Boys. Instantanément, la jeune fille est transportée par le riff génial de Mark Bolan. Le rocker aux cheveux bouclés monté en permanente est l'un de ses héros. Face de l'Ulysque, Electric Warrior avec son intro, Get It On. Aussitôt que les premières mesures de batterie s'égrènent, elle entend sa mère qui bouge au-dessus et se lève. La jeune fille, elle, saute sur la table, basse en bois, et mime de l'air guitare à la manière de Chuck Berry. Elle chante à plein poumon, se trémousse en rythme. Get it on, bang a gong, get it on. Elle se prend tellement au jeu qu'elle n'entend pas son père qui vient d'arriver les bras chargés de pâtisserie. Sa mère, elle, est en bas des escaliers. Elle est venue pour la disputer, mais en la voyant, elle ne peut s'empêcher de rire. Les deux petits de la fratrie courent pour la rejoindre et frappent en rythme sur l'accoudoir du canapé. Après tout, c'est ce qu'elle a commandé au Père Noël, une guitare. Quand James et Dorothy ont eu vent de la commande de leur fille au Père Noël, ils sont tombés des nues. Une guitare et un ampli. Ce vendeur en assurance aime le rock, certes, mais les jeunes filles qui en jouent, c'est tout de même plutôt rare. Mais bon, ce couple pousse toujours le curseur le plus loin possible quand il s'agit de faire plaisir à leurs enfants, alors qu'il en soit ainsi. James avait donc ouvert la semaine suivante la porte d'un petit magasin de musique du centre-ville et avait acheté un combo guitare plus ampli pour $30. Il a fait confiance au vendeur. James, lui, deal des chiffres et des contrats, pas des instruments. Et comme vous pouvez aisément l'imaginer, à la découverte de cette première guitare noire qu'elle trouve splendide, Joan saute à pieds joints. C'est l'euphorie la plus totale. Elle tente d'imiter ses idoles, mais se retrouve face à la réalité du poids de l'instrument qui manque de lui tomber des mains. Bref, elle reste une ado qui se croit plus grande qu'elle ne l'est réellement. Elle reste une enfant, ce qui a tendance à rassurer sa mère sur le moment. Elle est d'ailleurs la première à lui demander de jouer un morceau et de brancher l'ampli. Son père, lui, est déjà parti se raser. Thierry, d'un air intrigué, a quitté son panier et s'est doucement approché du canapé. Mais sa mère, en demandant ça, a oublié que l'ampérage de la maison est faible. Et alors que son mari vient de brancher les guirlandes extérieures, le premier son émis par l'ampli provoque un blackout énergétique dans la petite maison du Maryland. Et du bas des escaliers, Dorothy hausse la voix en direction de la salle de bain dans laquelle le robinet est allumé. James ! James, les plombs ont sauté ! Les semaines suivantes, Joanne s'inscrit à des cours avec un professeur reconnu de son coin du Maryland. Elle veut jouer du rock'n'roll. Keith Richards, Chuck Berry, Elvis Presley, les Doors et les Who. Et sans oublier, bien sûr, T-Rex, bien entendu. Mais le prof ne l'entend pas de cette oreille. Lui, il lui apprendra du Bob Dylan ou des morceaux bien kitsch des Beatles pour le plus grand plaisir de sa mère. La comédie dure quelques semaines et puis un jour, n'y tenant plus, la jeune Joanne lui demande pourquoi il ne lui apprend pas les morceaux qu'elle lui demande. Tirant une taffe sur sa cigarette et regardant la gamine avec dédain, il lui répond une phrase qui la marquera à tout jamais et construira l'artiste qu'elle va devenir. Les filles, ça n'a pas le droit de jouer du rock'n'roll. Hein ? Eh ben c'est ce qu'on va voir, vieille tronche. Notre histoire commence au début de l'été 1975. Voilà 4 ans que Joanne gratte sur sa guitare comme une dingue et joue du rock'n'roll. La jeune fille a quitté le Maryland avec ses parents lorsque toute la famille est partie s'installer sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, non loin du fameux panneau Hollywood. Les aléas de la vie font que ses parents finissent par divorcer et Joanne, en pleine crise d'ado carabiné, change de nom. Maintenant, elle s'appellera Joan Jett. Détrompez-vous. Ce n'est pas le nom de naissance de sa mère, mais elle trouve que Jett, ça sonne plus rock'n'roll que Larkin. Et sérieusement, on ne peut pas vraiment lui donner tort. En tous les cas, voilà la jeune fille de 16 ans qui déambule sur la South California Avenue à West Covina, sa ville de résidence. Blouson en cuir rouge et noir, pantalon en simili noir et bottes aux pieds, personne ne la loupe. Et comme d'habitude, elle a sa grappe dans le dos. Voilà qu'elle nous dépasse et elle ne semble même pas nous voir. Au moins, elle ne nous salue pas. Je vous propose que nous la suivions à bonne distance. La première répétition à laquelle elle se rend cet après-midi, où le soleil cogne avec virulence, va entrer dans l'histoire. Joan Jett déboule avec son instrument dans une zone de garage allouée à la journée. Elle mâche un chewing-gum avec provocation, bouche ouverte et chantonne. Elle bifurque dans une allée. Elle a l'air de chercher son chemin. Elle tombe finalement sur le bon numéro. Là, une jeune femme de son âge, Sandy West, monte une batterie. Elles se sont connues à l'école et, toutes deux rebelles, ont décidé de monter un groupe de rock. La seule condition pour l'intégrer, être une fille. Pas question d'y voir un mec tirer la couverture à lui. Non, pas cette fois. Leur idée a motivé quelques autres enfants perdus cherchant à se faire une place dans le monde de la musique. Et ce sont trois musiciennes supplémentaires qui ont rejoint le duo. Jett et West ont déjà choisi le nom de leur groupe. Il s'appellera les Runaways, littéralement les Fugueuses. Tout un programme. Joue un rock énergétique, glam rock même pour nous dire, tirant déjà sur le punk. Les guitares sont descendues très bas, presque au niveau des genoux, en signe de rébellion, avec un chant qu'on n'attribue jamais à des gamines de 16 ou 17 ans. Ah, le cocktail est explosif. Mais le groupe va mettre quelques mois à décoller. L'histoire prend forme uniquement lorsque Jerry Curry, une ado de leur génération, va prendre le micro et mettre le feu aux poudres avec sa chevelure blonde platine et ses plateformes aux pieds. Une véritable rockstar. Tout de suite, le tandem Jett Curry s'impose pour les compositions et le lead du groupe. Les gamines tapent dans l'œil de Kim Fowley, un producteur américain déjà bien connu et qui leur fait signer un contrat en 1976 chez Mercury Records, le label de la grande classe. On ne parle pas de n'importe quelle maison de production. Mercury, s'il vous plaît. C'est l'étiquette collée sur les têtes de Kiss, In Excess, Bowie, Jerry Lee Lewis et bien d'autres encore. Cette marque de confiance n'est pas à prendre à la légère. Le milieu musical de l'époque est ouvert aux États-Unis à des innovations multiples. Et cette idée d'un line-up féminin, après tout, pourquoi pas? Mais bon, pour jouer et percer, il leur faut un titre phare. Et c'est Joan qui va leur trouver le bon filon en composant la piste Cherry Bomb. Et bingo, c'est le jackpot. Jeu de mots entre Thierry, Cerise, et le prénom de la chanteuse du groupe est évident. Cette track, c'est 2 minutes 20 de pur bonheur et de provocation. Le clip fait tourner toutes les têtes. En porte-jartel blanc et noir, la chanteuse devant sur scène le trio formé par les guitares et la basse, qui se place devant la batteuse. À gauche, Jett se révèle au volant d'une Gibson couleur or. Elle arbore un jeu scénique des plus sages, chaussée d'une paire de bottes blanches recouvrant un simili noir. Tout le contraire des paroles qui sortent de la bouche de cette gamine encore mineure en lingerie. Salut papa, salut maman, je suis votre Cherry Bomb. Salut le monde, je suis ta fille sauvage, je suis ta Cherry Bomb. Un petit solo de guitare et emballer ses pesées. Mais alors que les ventes décollent en Europe, et surtout, phénomène totalement nouveau pour un groupe de rock US au Japon, les critiques nationales, elles, sont plus mesurées. Et surtout, les filles vont être les victimes de haine. Une haine qui va se déverser sur elles et sur leur travail. La misogynie dans le monde du rock'n'roll est un phénomène bien connu et observé à de nombreuses reprises. À croire que la musique sanguine ne peut être réussie qu'avec de la testostérone. Pourtant, il suffit d'écouter Cherry Bomb une ou deux fois pour être convaincu du contraire. Ce n'est d'ailleurs certainement pas le cas des machistes qui déversent leur haine sans fondement ni retenue sur ce groupe de jeunettes qui aurait pu, vu la violence de certaines attaques, faire marche arrière. Mais il n'en sera rien. Elles accélèrent, se nourrissent de cette malveillance pour provoquer encore un peu plus. Mercury leur fait enregistrer un premier album dans la foulée. Leur batteur n'étant pas disponible pour la totalité des enregistrements, c'est le futur batteur du groupe Blondie qui s'y collera. Rien que ça. S'ensuit une tournée nationale et les morceaux qui sortent avec cette première cuvée sont les plus percutants. Courts, trash, provocants, c'est la recette Made in Runaways. Les scènes de tous les pays sont balayées par les tenues provocantes de la chanteuse et les paroles souvent grivoises d'une bande de jeunes filles qui viennent de fêter leur 17e anniversaire. Le succès est au rendez-vous, mais pas au point attendu en premier lieu. On renvoie donc les filles en studio et le deuxième album, Queens of Noise, les reines du bruit, pour le dire poliment, va déboucher sur une tournée, cette fois mondiale. Et voyageant toute la deuxième partie de l'année 1976 en Europe et en Asie, la petite bande se rend compte que l'accueil n'est plus le même. Elles sont adulées comme des pionnières. Les ventes au Japon explosent. Elles deviennent en Asie des véritables rockstars. Elles rentrent cependant aux États-Unis un peu avec la gueule de bois, déçues de ne pas être prophètes en leur pays. Oh, elles ne sont pas les premières à qui cela arrive, bien entendu, mais John et ses amis sont particulièrement affectés par ces attaques machistes incessantes, qu'elles sont toujours contraintes de repousser à coups de nouvelles provocations et de chansons. Le troisième album, qui en général est celui de la confirmation, ne l'est pas vraiment. Des dissensions naissent entre les filles. D'un côté, Joan Jett, qui a compris que le vent les portera vers un style plus marqué punk glam rock. De l'autre, Sandy West, la batteuse avec qui elle a fondé le groupe, et l'autre guitariste, qui souhaite plutôt jouer du heavy metal. Elles veulent suivre la voie des groupes comme AC/DC, qui commencent à percer sur le sol américain. Difficile de savoir ce qu'il serait advenu si les filles s'étaient mises d'accord, mais en tous les cas, le groupe décide de se séparer au début de l'année 1979. Fin de l'histoire. Sandy West, la cofondatrice du groupe, va continuer une aventure musicale en solo et finira par mourir d'un cancer des poumons en 2006. L'autre guitariste, qui voulait faire du heavy metal, va en faire, collaborant notamment avec Ozzy Osbourne et explosant les charts américains sur certains titres. Lita Ford, voilà son nom, si vous êtes curieux d'aller découvrir son univers. Cherry, la chanteuse en porte-jartel, elle, va s'essayer à une éphémère carrière d'actrice avant de lâcher totalement la voie du show business. Aujourd'hui, elle est devenue sculptrice à la tronçonneuse, toujours dans la délicatesse comme vous le voyez. Mais celle qui nous intéresse plus que les autres, Joan Jett, décide elle aussi de continuer la musique. Elle se lance dans une carrière solo qui, vous allez le voir, peine fortement à démarrer avant de pourtant devenir légendaire. Ce sera grâce à une reprise d'un titre d'un sombre groupe venu de Grande-Bretagne.
L'heure H, Jean Milaé.
Aujourd'hui, notre heure H se consacre à la carrière d'une pionnière du rock'n'roll aux États-Unis, Joan Jett. Un parcours qui commence à l'âge de 16 ans par un groupe qu'elle fonde avec d'autres adolescentes de sa génération, les Runaways. Elles seront promues au rang de stars en Europe et en Asie, mais nullement prophètes en leur pays. Et ça, Joan va l'apprendre à ses dépens. La musicienne, qui souhaite ensuite se lancer dans une carrière solo, va faire face à un mur et sera contrainte d'enfiler son perfecto de rebelle, encore une fois. « Nous sommes en 1980, un an après la séparation des Runaways. Dans sa maison de Long Beach, dans l'état de New York, Joanne est au fond du trou. Son grand ami avec qui elle a décidé de travailler depuis le départ de sa carrière solo, Kenny Laguna, est avec elle. Et alors que la star pète un plomb et envoie valser la moitié du mobilier du salon, lui reste calme. Il attend que la tempête passe avant d'intervenir. Pas fou le bonhomme. Il sait bien que Jet est une vraie furie quand elle est en colère. Alors, il ne tente surtout pas de remettre des pièces dans le jukebox pour relancer la machine. Non. Sa cigarette à la main, appuyée sur le rebord de la fenêtre qui donne sur les arbres environnants, il se contente sagement d'attendre. Il faut dire que Joanne Jett est en colère pour une excellente raison. Voilà le 23e, vous imaginez, 23e label qui refuse de la produire. Les filles ne jouent pas du rock'n'roll. Cette foutue maxime de son premier professeur de guitare lui trotte encore dans la tête. Non pas qu'elle se laisse abattre, non, mais elle est fatiguée. La lionne, tout doucement, commence à baisser sa garde et à presque penser qu'elle n'est pas à sa place. Mais Kenny est là pour la remettre sur le droit chemin et redorer cette confiance en soi en berne. Ah, lui, il y croit depuis le premier jour. Cette nana est un diamant brut. Il le répète à chaque fois qu'il tente d'aller la vendre au label. Bien entendu, le fait de se faire recaler n'est jamais facile, mais on apprend de ses échecs, non ? Comme dit l'autre, ce qui ne tue pas... Enfin, ça c'est la théorie. Parce que ça